Personne n'a dit je suis devenue adulte la première fois où j'ai voté, par exemple. Il y a une déconnexion totale, et moi-même, hein, en disant l'exercice de la citoyenneté qui pourrait être l'autonomie, on vote différemment de ses parents, sans responsable, c'est jamais venu. Et vous avez une explication?
C'est-à-dire que le vote est un moment symbolique important, mais qui n'est qu'un seuil. C'est pas un passage, c'est un seuil. D'ailleurs, on le voit, c'est sur le plan des comportements électoraux, les comportements électoraux basculent justement quand les individus ont des enfants, ou ont famille, ou en tout cas ont une conception qui consiste à dire « je joue pas pour ma pomme », mais ce qui est normal pour un jeune, d'ailleurs, de dire « le boulot d'un jeune, c'est de se construire ». Donc c'est normal qu'il soit égoïste. Il se construit, il sait toute son énergie pour ça. À un moment donné... Effectivement, on regarde, on se dit, tiens, les enfants, l'avenir. Et le comportement électoral change. Alors, dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bascule aux environs de 28,4 ans. Ce seuil fatidique. Alors, certains disent, mais abaissons la majorité. 16 ans. Mais en fait, ce qu'on fait quand on abaisse la majorité, c'est qu'on augmente l'abstention. C'est mécanique. Dans tous les pays connus où ça s'est fait, c'est mécaniquement l'abstention a augmenté. Donc si on veut faire intégrer les enfants, les jeunes dans la citoyenneté, il faut accepter que c'est un processus, et que c'est pas une scansion, et qu'en effet, le moment symbolique de passage électoral n'a pas de sens. Il est beaucoup plus intelligent que les députés en poste, même très âgés, décident des politiques publiques en pensant aux jeunes, plutôt que d'exiger que les jeunes soient à l'Assemblée. C'est absurde. On voudrait que les jeunes votent pour les jeunes, que les animaux votent pour les animaux, donc élisons des députés animaux, que l'avenir vote pour l'avenir, donc élisons des gens qui ne sont pas encore nés. Bon, il y a des propositions comme ça, l'Assemblée de l'avenir, Dominique Bourg, par exemple. Non, il faut admettre qu'il y a la possibilité de quelqu'un, lambda, un député, lambda, de dire « Tiens, je ne suis pas trop con, je peux penser aux jeunes, à l'avenir, aux animaux, sans être obligatoirement... » incarné dans les intérêts des animaux. C'est au contraire une conception anglo-saxonne du fait que les gens sont focalisés sur leurs propres intérêts. Ben, si c'est ça, c'est pas la peine de vivre en démocratie. Voilà. Autant vivre dans une bonne dictature, c'est beaucoup, ça marchera bien mieux. Si on a une anthropologie où les gens sont capables de s'ouvrir aux intérêts des autres et donc à l'intérêt général, eh bien, il n'y a aucune utilité à ce qu'il y ait un pourcentage ou un quota de jeunes, même de femmes, on pourrait dire. Ça, on peut discuter éventuellement, parce que la révolution du féminin, il faut l'incorporer. Donc je serai sur la question de la parité peut-être un peu moins net que ce que je suis en train de dire. Et je pense que c'est quand même une bonne chose que les effectifs politiques se féminisent. Mais jeunes, femmes, enfants, animaux, environnement, voilà. On n'est pas focalisé sur notre intérêt. Donc voilà mon interprétation sur la question du vote, qui est effectivement un moment parmi d'autres d'une étape de la jeunesse, mais pas le marqueur principal.
Oui, peut-être en réfléchissant à ce que vous m'avez, parce que vous nous avez là brossé, qui était tout à fait stimulant, je me dis, il y a quelque chose chez vous du philosophe antique. Il y a une espèce de vision, il y a un petit peu une dimension sagesse des antiques, sagesse des anciens contre sagesse des modernes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision patricienne de l'adulte. Au fond, l'adulte, c'est la personne. L'adulte, c'est celui qui concentre l'ensemble des valeurs de ce qui fait une personne accomplie. Vous les avez bien développées. Et le jeune, enfin, et l'enfant, ça n'est qu'un adulte en devenir. Et le vieux, ça n'est qu'un adulte, dont il faut préserver l'âge adulte. J'ai rien contre cette vision, et je la trouve même plutôt noble. Mais au fond, il y a une forme quand même d'impérialisme de l'adulte dans ce que vous nous proposez. Et je me demande si cet effacement de l'adulte sur lequel vous êtes interrogé, il n'a pas aussi quelque chose à voir avec le droit des minorités. C'est-à-dire que potentiellement, quand même, si on vous suit, il n'y a plus vraiment de droits spécifiques de l'enfance, notamment, ni de... Alors, en revanche, pour la vieillesse, ça serait plus délicat à dire, mais voilà, il n'y a plus cette espèce de... Et notamment de droits à l'irresponsabilité de l'enfance. Ouais, voilà, c'est...
je pense qu'il y a en effet un impérialisme de l'adulte. Moi, j'assume la chose. Je pense qu'effectivement, la vie humaine mérite d'être vécue en tant qu'adulte. Voilà. Et je pense qu'il faut avoir aussi un peu de provocation et le courage de le dire. Parce qu'on est dans le jeunisme, on est dans l'infantilisme, on est dans l'agisme, on est dans la victimisation. Oui, mais s'il n'y a que des victimes et pas de personnes pour les soigner, l'éthique du care, c'est bien sympa, mais si tout le monde est souffrant et qu'il n'y a personne pour aider les souffrants, ça n'a aucun sens. L'éthique du care ne fonctionne que s'il y a des adultes pour faire le boulot. Donc moi, je suis très, très hostile à cette éthique, comme une sorte d'impérialisme. Il faut faire très attention. Il faut toujours qu'il y ait des adultes, donc des gens en qui on ait confiance. Alors, ça ne veut pas dire en même temps, parce que, vous voyez, l'adulte, c'est pas l'adulte encore uniforme. C'est vraiment une sagesse. Et ce qui m'opposerait aux antiques, c'est que c'est pour tous. Alors que pour les antiques, les adultes, en ce sens-là, c'est vraiment la crème de la crème. Donc, je suis, de ce point de vue-là, démocrate. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, femme compris, comme je l'ai dit, a la possibilité d'être adulte et a le droit d'être adulte. Et qu'il y a déjà de l'adulte dans l'enfant, et c'est cet adulte dans l'enfant qu'il faut identifier et développer. Mais il y a une question qui peut être intéressante, qui est une question un peu amusante sur le plan philosophique, mais elle peut avoir des portées politiques très, très, très fortes. C'est la question: à qui appartiennent les enfants ? Alors, la réponse traditionnelle à cette question, c'est la réponse qui consiste à dire: les enfants appartiennent à la famille, à leurs parents, à la famille, au clan ou à la patrie. Allons, enfants de la patrie. Voilà. Qui, du coup, ont le droit d'en user, d'en abuser. Parce que ça leur appartient. Droit de vie et de mort sur les enfants. Donc ça, c'est la première réponse. Évidemment, cette réponse va nous choquer, on va dire, mais pas du tout. Les enfants s'appartiennent à eux-mêmes. Mais des enfants qui s'appartiennent à eux-mêmes, c'est des enfants abandonnés. Débrouille-toi. Tu n'appartiens à personne. Tu t'appartiens à toi-même. Donc démerde-toi. Et donc, les deux réponses, la réponse ancienne et la réponse ultra-moderne, sont insatisfaisantes. Il me semble que la bonne réponse, c'est l'idée que l'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard. Et là aussi, quand vous réfléchissez au caractère pragmatique de cette petite maxime, l'enfant appartient à l'adulte qu'il sera plus tard, ça a des conséquences abyssales. C'est-à-dire que la tâche du parent, du prof, que sais-je, c'est d'occuper temporairement, et le moins mal possible, parfaitement c'est impossible, mais le moins mal possible, c'est de fonction de l'adulte que l'enfant sera plus tard. Est-ce que je peux sortir ce soir ? Ma réponse est non, t'as pas le droit, parce que c'est comme ça, c'est de dire, je me place du point de vue de l'adulte que tu seras plus tard, comme t'as un examen de maths demain, non, tu ne sors pas. Parce que si tu étais adulte, tu te prendras exactement cette décision. Donc voilà un principe très simple pour l'éducation. L'éducateur doit adopter la place de l'adulte, que l'adulte aura demain. C'est pour ça que c'est un impérialisme, mais un impérialisme bienveillant et responsable. Puisqu'il s'agit justement de faire grandir. La caractéristique de l'impérialisme, c'est plutôt d'aller rapetisser les autres. Là, il faut faire grandir. Mais cette fonction va aussi pour le très grand âge. À qui appartiennent les très très vieux en dépendance et en Alzheimer absolu? Parce que ce qui caractérise l'Alzheimer, c'est pour ça que c'est tragique, c'est que l'adulte se détricote. Il perd le rapport au monde. Il perd le rapport aux autres. Et il perd même le rapport à soi. Donc on assiste à un détricotage de l'adulte. Et ce détricotage de l'adulte est tragique parce que c'est vraiment effectivement quelque chose qui semble irrémédiable. Autant dans l'éducation, on produit l'avenir, on construit l'adulte. Là, ça se détricote. Et donc, avec souvent le sentiment que ça retombe en enfance. Il retombe en enfance. Et donc la tâche des soignants, des accompagnants, c'est justement de préserver, de protéger l'adulte dans ces personnes. Même quand eux-mêmes paraissent l'avoir oublié. Et c'est une tâche d'autant plus noble qu'effectivement, il y a des promesses de l'aube, mais il n'y a pas de promesses du crépuscule. Et donc c'est vraiment une tâche extrêmement puissante. Et j'étais il y a quelques jours dans un EHPAD, et une personne qui m'a dit un truc, ça m'a ému et choqué, et voilà, fait vraiment réfléchir. Elle dit, voilà, je suis avec ces personnes qui sont effectivement dans l'instant et qui ont beaucoup de difficultés à vivre, à faire des projets. Parce que, bon. Elle dit, ça m'apporte énormément. Alors, au début, on a toujours la suspicion, ces discours un peu convenus, etc. Mais elle disait une chose extrêmement puissante, qui renoue avec les sagesses antiques. Ce que disent tous les philosophes antiques, c'est de dire que nous n'arriverons jamais à vivre notre vie. Nous avons d'abord une vie courte, mais dans cette vie courte, nous gâchons notre temps. Notre temps, nous n'arrivons pas à habiter l'instant, puisque quand nous sommes dans l'instant, nous sommes toujours taraudés par les regrets et les remords. Et quand nous ne sommes pas taraudés par les regrets et les remords, nous avons des espoirs et des peurs de l'avenir. Ces espoirs, ça veut dire que nous ne vivons pas, nous espérons pour demain. Et quand nous arrivons à habiter l'instant, c'est soit la souffrance, soit l'ennui. Voilà la vie humaine. Quand nous sentons le présent, c'est qu'on s'emmerde ou on en bave. Là, on le sent bien, le présent. Mais autrement, on est toujours dans le remords, dans le regret ou dans l'espoir ou la crainte de l'avenir. Donc nous ne vivons jamais notre vie, nous sommes des mortels. Non pas parce que nous allons mourir, mais nous sommes déjà morts. Et elle me dit, ce que les Alzheimer m'apprennent, c'est l'instant. Parce que eux sont dans l'instant. Ah, j'étais scotché. C'est l'instant. Voilà. Ils ne sont pas dans les regrets, ils n'ont pas de souvenirs, ils ne sont pas dans les romans, ils ne sont pas dans les projets, de toute façon, il n'y en a pas. Ils sont dans l'instant. Et tout ce que ça m'apprend, c'est de vivre l'instant et de rendre l'instant le plus qualitatif possible. J'étais vraiment ému, parce que en termes très simples, elle avait renoué avec toute la tradition philosophique la plus classique, mais en lui donnant, parce que c'est un peu un télo, le truc, carpe diem, tout ça. Là, c'était vraiment une expérience vécue. Voilà. Et elle le disait de façon très authentique et sincère.
Oui, mais l'âge de l'instant, c'est pas l'âge de la vie.
Ça peut l'être. Ça peut être un moment de responsabilité. Par exemple, le fait... Si, il faut qu'on arrête, c'est ça ?
Non, ah oui, une question.
Ah oui.
Juste signaler.
Voyez, vous arrivez du boulot, vous êtes crevé, il y a vos enfants qui commencent à discuter avec vous, vous n'en pouvez plus. Vous dites, ben si, il faut habiter l'instant. Ça, c'est la responsabilité de l'adulte. Il faut faire le boulot, il faut être en forme, disponible, etc. Ça, c'est adulte.
Il faut habiter l'instant.
C'est dur.
Donc, Yann Cabrol, l'agence d'urbanisme de Toulouse. Je vous remercie d'abord pour tout votre exposé, parce que c'était passionnant. Vous nous avez dit que si on veut tellement guérir les autres, c'est qu'on ne sait plus assez les aimer. Et je trouve que le petit échange qu'il vient d'avoir là fait tout à fait écho à la question que je voulais vous poser. Est-ce que finalement, il n'y a pas une question de rapport au temps ? Enfin, ça a été tout votre exposé qui était là-dessus, ce qui est amusant dans un séminaire IEDAT plutôt sur le territoire. Et finalement, on voit que ce rapport temps et territoire qui est intéressant aussi. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette question de cette vie qui s'allonge, et finalement, mais les autres, c'est avoir de la disponibilité dans une vie qui s'accélère, où, on nous l'a redit, on veut tout faire en même temps et on veut changer plein de fois. Voilà, est-ce que cette question, finalement, de l'obsession du soin, de la guérison, du traitement, notamment dans le grand âge, n'est pas liée à une absence de disponibilité des générations, alors que vous avez qualifié d'adultes, mais peut-être aussi des plus jeunes, vis-à-vis de ce grand âge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nouveau aujourd'hui du fait de cet allongement-là?
Oui, je pense que la pression temporelle, ça c'est un point qui est effectivement très, très complexe. Mais j'allais dire, ça ajoute un devoir supplémentaire pour l'adulte. Si vous êtes responsable des autres, effectivement, il faut être responsable, en garder sous la pédale. Il ne faut pas que vous saturez votre temps. Ça, c'est quelque chose d'être extrêmement difficile. Enfin, je pense qu'on en fait tous l'expérience. On dit, voilà, il faut être performant, il faut faire son travail, etc. Et on s'aperçoit qu'on n'en garde pas sous la pédale. Et qu'en général, on s'en aperçoit le moment où c'est un peu trop tard. Les deuils, la souffrance, les crises, etc. On dit, merde, si j'avais su, j'en aurais regardé un peu. Et ça, c'est un défi, parce qu'on a l'impression que ne pas le garder sous ce temps disponible, c'est du temps perdu, précisément. On ne fait pas bien son boulot si on garde ce temps-là, si on s'ennuie. Il y a une petite... j'ai un autre domaine de spécialité qui sont les abeilles, et on a l'image d'une ruche où les abeilles bossent comme des... sans arrêt. Voilà, les abeilles bossent. Eh bien, pas du tout. Les chercheurs ont montré que dans une ruche, il y a plein d'abeilles qui ne foutent rien. Et c'est très intéressant parce qu'elles ne foutent rien, c'est justement pour éviter l'entropie des systèmes. Un système entropique, c'est un système trop parfait qui, par sa perfection, au bout d'un moment, se fige. Eh bien, la ruche est un système qui n'est pas entropique puisqu'il y a un petit peu de marge. Et le jour où il y a des crises qui arrivent, eh bien, les abeilles qui ne foutent rien sont disponibles pour filer un petit coup de main. Voilà. Alors c'est un autre élément de la sagesse des abeilles qu'on avait étudié, mais qui va dans votre sens. Et c'est très adulte, hein, je pense que c'est au contraire très adulte.
Séverine Bourgeois, moi je tout à l'heure quand on a levé la main là pour dire est-ce qu'on est adulte, est-ce qu'on est machin, je pense que maintenant je répondrai pas exactement la même chose.
Vous êtes adulte maintenant,
parce que ben, je lèverai plus souvent la main, je pense. Mais moi je c'est plus une remarque que je fais, mais je trouve que du coup cet âge adulte, puisqu'on a vu, y compris avec Jean-Pierre ce matin, que donc le temps, l'âge jeune, enfin le temps est plus long. Notre vie et tout, voilà, s'étend. Le temps jeune est plus long, on est vieux plus longtemps. Donc finalement, dans votre explication de ce qui fait l'âge adulte, on a beaucoup de responsabilités, enfin, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Donc c'est quand même, la charge, elle est lourde. Et ça rejoint un peu ce qui vient d'être évoqué. Est-ce que et on voit qu'il nous faut aider nos jeunes à grandir et à continuer de garder cette envie de grandir. Il faut faire le lien avec nos plus vieux. Et puis, il faut que nous-mêmes, on soit voilà, dans notre évolution, mais qui, elle, semble être en mouvement permanent, donc jamais complètement fini, parce qu'après, on est dans la maturité qui annonce la décrépitude, si je puis dire. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup pour un moment de notre vie qui semble moins long, finalement, peut-être que les deux autres âges. Et est-ce que les autres, ils ont aussi un peu de responsabilité vis-à-vis de l'âge adulte ou pas ?
Non, je crois pas. C'est ça. Alors, simplement, il faut quand même noter que on ne cesse pas, à mon sens, on ne cesse pas d'être adulte. C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas un antagonisme. C'est-à-dire que la vieillesse est une expérience de l'âge adulte. C'est le moment où on peut se dire, comment définir la vieillesse ? C'est le moment où on vit le premier jour du reste de sa vie. C'est le moment de bascule. On pourrait poser la même question. À quel âge est-ce qu'on vous êtes senti vieux ? Alors certains diront, c'est le jour où on m'a laissé sa place dans le bus et c'était pas de la galanterie pour les femmes. Voilà, c'est. Mais de ce point de vue-là, la vieillesse est un approfondissement de l'âge adulte. Ce n'est pas son contraire. On pourrait... Alors, c'est passionnant, la querelle de la vieillesse, mais ça sera notre exposé. Hein. C'est tout le... Voilà. Pourquoi vieillir aujourd'hui ? Vieillir pour ou contre ? C'est la plus grande, la plus ancienne querelle philosophique. Hein. C'est vieillir pour ou contre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais on voit qu'il y a les ressources. Il y a un discours anti-vieux, il y a un discours pro-vieux, il y a Cicéron, il y a... Bon, ça, c'est très, très vaste. Mais ce n'est pas le contraire de l'âge adulte. Et donc, le contraire de l'âge adulte, c'est effectivement cet âge qui se dessine de la dépendance. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas. C'est l'angoisse à l'égard de l'Alzheimer, c'est pas simplement... C'est vraiment le dire, mais j'ai bossé toute ma vie pour être adulte, pour être le mieux possible, pour construire. Et là, je m'aperçois que c'est en train de foutre le camp. Et quand vous avez des gens qui sont lucides sur le fait qu'ils sont en train de perdre... Il y avait la responsable de cette association, Amadiem, qui était jeune, qui avait 40 ans, mais voilà, elle savait qu'elle était atteinte. Elle était en train de créer cette association, justement parce qu'elle savait qu'elle allait... Son père était Alzheimer, elle allait devenir Alzheimer. Et elle était en train de dire, je me souviens de cette salle, là, il y avait 700 soignants dans une salle, j'internais juste après elle, et elle disait, mais voilà, demain, je suis Alzheimer. Pourquoi vous ne me foutez pas la paix et pourquoi vous voulez pas que je fasse ce que j'ai envie de faire ? Et donc elle leur disait, mais je suis un sujet libre, et donc pensez à moi quand vous allez m'empêcher de sortir, etc. Pensez-y. C'est un discours incroyable. Et voilà, donc c'est là où ce détricotage de l'âge adulte, c'est vraiment ce qui nous angoisse le plus. C'est terrible. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose d'abominable. Pour laquelle, effectivement, la solidarité... Alors, la politique, hein, parce que les familles, ça ne suffit pas. Il faut absolument d'action politique. Tout seul, en famille, face à ça, pas possible. Voilà. Donc, pardon, je vais faire plus court.
Aurélien Biscot, donc agence d'urbanisme, Lorraine. Bon, moi, après vous avoir entendu, je pense que je vais vous lire bientôt.
Félicite.
Je voulais vous poser peut-être une question un peu moins philosophique, mais dans votre propos, à un moment donné, vous avez abordé, me semble-t-il, la politique de la fragmentation. Vous avez dit, on a une politique 3e âge, 4e âge, petite enfance, etc. Et vous avez semblé regretter cette discontinuité politique. Donc, j'ai pas l'impression que dans votre propos, vous avez dit des choses, mais vous n'êtes pas allé vers des recommandations ou des choses qui vous sembleraient plus profitables. Voilà, est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus ?
Je vais pas être trop long, mais je vais pas être long du tout. Mais c'est vraiment toute la politique de l'intergénérationnel qu'il faudrait mettre en place, avec l'idée, en effet, que l'intergénérationnel, c'est toujours le pivot, c'est l'adulte. C'est-à-dire qu'on ne fait une politique intergénérationnelle qu'en se fondant sur les adultes, même si les gens sont mineurs, peu importe. Mais c'est la dimension adulte qui importe. Et politiquement, ça peut se décliner. Il m'arrive d'intervenir dans les collectivités locales. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens des Côtes d'Armor là qui, voilà. Vous étiez il y a quelques années. Donc voilà, c'est des recommandations qui sont en tout cas de faire en sorte que sur le plan des personnels, il puisse y avoir des partages de pratiques et une réflexion commune sur les différents âges de la vie, parce que les frontières sont incertaines, les problématiques sont souvent les mêmes. Et si on segmente trop et si on fragmente trop, on arrive à des politiques publiques qui s'enlisent. C'est excessif parce que ça marche quand même pas mal. Faut pas non plus exagérer. Hein, ça marche plutôt bien d'ailleurs. Mais ça donne un effet démultiplicateur et démultiplie l'efficacité et les effets. Voilà. Ça, c'est la petite recommandation. Après, on peut décliner des petits éléments plus précis et plus politiques, des mesures, comme on dit, dans les programmes. C'est possible, mais ça serait un peu trop long.
Alors, je ne sais pas si on entendra.
Nicolas Mourlon, Institut de formation de l'environnement. Je voulais savoir si votre constat il est universel, selon vous, ou s'il est différencié suivant les pays. Et corrélativement un peu, est-ce que le politique doit essayer de clarifier les passages ? Est-ce qu'il peut mener des politiques ? Alors j'allais dire, moi j'ai pas réagi tout à l'heure sur mon passage à l'âge adulte, mais le service militaire avait un sens. Voilà. Et quand j'étais en 5e dans les cours d'instruction civique, on avait encore à ce moment-là, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, pour moi j'allais devenir adulte au moment où j'allais faire mon service, et j'allais devenir vieux au moment où je pourrais faire de la politique. Alors, je suis élu aujourd'hui. Mais en gros j'avais cette idée-là. Voilà. Et donc est-ce que ça a un sens pour un politique d'essayer de clarifier les passages ? Est-ce qu'il y a des pays qui le font ? Alors après, j'ai donné un autre exemple très différent. J'ai des au-pairs depuis plusieurs années. J'ai eu trois Allemands, tous les trois 18 ans, mais 18 ans et 5 jours, parce que après leur bac, ils font une année de césure et tout. Et j'étais frappé en allant chez eux, en rencontrant d'autres jeunes là-bas. 18 ans, il y a un rite. Je ne sais pas s'il apporte autre chose, mais il y a vraiment un rite. Et est-ce que ça apporte aussi, en référence à l'exposé ce matin avec Jean Viard, est-ce que ça apporte aussi plus de stabilité par rapport à la fugacité des appartenances, tout ce qu'on a vu ce matin. Et donc pour le politique, ça peut être rassurant.
Oui. Deux réponses brèves. Sur le plan international, oui, c'est assez stable. Alors, j'ai tenu dans différentes zones du monde. Le consensus sur l'adulte est très surprenant, mais il est très spectaculaire. C'est cette redéfinition de l'âge adulte, qu'on soit en Chine, aux Émirats, ou au Brésil, voilà, ça fait sens. Après, évidemment, le grand clivage, c'est entre les sociétés traditionnelles, ou qui restent encore traditionnelles, et les sociétés qui sont modernes, individualistes. C'est vrai qu'au Japon, il y a une ritualité, il y a un rite de l'âge adulte qui reste très présent. Vous voyez des petites japonaises avec habillées en costume traditionnel, et voilà, c'est le rite. Voilà, c'est ça. qui sont encore des rites identifiés comme tels. Mais fondamentalement, la problématique est. Enfin, le Japon est intéressant parce que c'est là où la tradition est la plus présente et la modernité la plus présente. Donc c'est du violon et on voit ça en direct. C'est pour ça que c'est très, très stimulant. Cette évolution-là, je pense, est assez globale. Il faut évidemment pondérer les choses, mais c'est assez global. Et d'ailleurs, un indice là-dessus, c'est paradoxalement, c'est tous les réflexions des produits des industries du luxe. Et c'est très intéressant de les étudier parce que le rapport à l'âge, le meilleur moyen de les observer, c'est par les produits anti-âge et le business des produits anti-âge. Et ils font un boulot extrêmement intéressant de voir comment les choses se déclinent dans le monde. La deuxième réponse, c'est sur effectivement les stratégies d'entrée dans l'âge adulte. Alors là, il y a des enquêtes qui sont très bien faites, notamment de Cécile Mondevelde, qui est une sociologue, qui voit comment en Europe, en fonction des différents modèles d'État-providence, vous avez des stratégies d'entrée dans l'âge adulte qui sont très différentes. Grosso modo, 20 ans pour l'Europe du Nord, 23 ans pour l'Allemagne et la France, et 28 ans pour l'Europe du Sud, avec des stratégies très différentes. C'est l'Européen du Nord part pour un trip où il va pendant 10 ans mêler études, boulot et voyage, financé à la fois par l'État et la famille, de 20 ans à 30 ans, donc avec l'année de césure. Qui reste. En France, c'est, disons, l'autonomie se situe plutôt vers 23 ans, 25 ans, avec un accompagnement beaucoup de la famille mais un peu, et aussi un peu de l'État. Et puis, j'allais dire, l'Italien, il part de sa mama uniquement quand il a tout. Voilà, il passe de la mama à la femme, et voilà, c'est à peu près la même chose. Mais en tout cas, il faut, c'est brutal, mais la phase de transition se fait plutôt en famille. Alors c'est rendu beaucoup plus complexe par effectivement les questions de l'emploi en Europe et les fameux NEETs, les jeunes qui n'ont ni en emploi, ni en formation, ni en études. C'est-à-dire cette jeunesse perdue qui est vraiment la bombe à retardement de l'Europe du fait de la crise, c'est-à-dire des gens qui sont hors des tuyaux de l'État-providence. Et cette jeunesse-là, et qui représente dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie, parfois 20% de la jeunesse, et ça veut dire qu'ils vont avoir des enfants, et ces enfants, ça va être très très problématique, et il faut vraiment arriver à remettre cette génération-là dans les tuyaux de l'État-providence pour que la protection se fasse et l'accompagnement se fasse.
Je me disais, cette typologie-là que vous avez esquissée rapidement sur les différentes manières de rentrer dans l'âge adulte, vous pourriez nous la... Vous en avez une sur...
Oui, c'est Gotha et Spigman-Andersen, c'est les trois mondes de l'État-providence, et c'est Cécile Vandevelde qui est la grande...
Je voudrais savoir si vous pourriez me faire une typologie équivalente sur
la vieillesse, et notamment en articulant ça avec la question intergénérationnelle.
Pour les pays. Non, alors c'est une bonne idée, mais je oui, c'est une bonne idée. Je n'ai pas pensé à ça.
Je pense que vous l'avez en tête, c'est-à-dire que il y a quand même, et d'une certaine manière, peut-être que c'est peut-être qu'on retrouve les mêmes groupes de pays, c'est-à-dire que il y a des pays où il y a des solidarités familiales extrêmement fortes, Europe du Sud, disons des pays où il y a des prises en charge collectives très socialisées, Europe du Nord. Enfin, c'est une image très d'Épinal que je formule, mais et puis une sorte d'entre-deux qui ne sait pas trop sur quel pied danser, dans lequel on se situerait. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, j'aurais bien aimé.
C'est juste, c'est ça. Ouais. Je pense que la typologie reprend ce que fait Gotha et Spigman-Andersen sur les trois mondes de l'État-providence, donc le modèle État-providence strict nantique, le modèle familial, enfin conservateur sud, et puis le modèle libéral anglo-saxon, que je n'ai pas évoqué ici. Mais oui, ça colle assez bien, oui. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé, donc voilà, ça à creuser.
Est-ce qu'on peut être jeune et adulte à la fois?
Ça s'appelle jeune adulte, ouais. je pense. Alors, au fond, je pense pas. Voilà, pour le dire, je pense pas. Je pense qu'une fois qu'on est entré dans l'âge adulte, on est plus jeune. Voilà. On regarde le monde différemment, ça n'empêche pas de se sentir jeune, d'être en forme, etc. Mais une fois qu'on est entré dans l'âge adulte, il y a une autre vision du monde radicalement différente.
Et il n'y a pas de retour.
Non. C'est l'enfance. Mais en même temps, après, il y a les âges et puis il y a ce qu'on vit. C'est par exemple ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la légèreté retrouvée. Moi, j'interpréterais peut-être, d'ailleurs, enfin, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, comme une sorte de moment d'âge adulte, où en fait, vous dites, la vie est... Voilà, c'est une forme de légèreté, mais qui est rendue possible. On sent la légèreté uniquement parce qu'on a senti la pesanteur. Donc, voilà.
Frédéric Parade, au Conseil régional des Hauts-de-France. Je me demandais, parce que vous nous avez présenté des clés de lecture de la société... en fonction des différents âges de la population. Et je me demandais si vous développiez également cette analyse couplée avec des catégories sociales, c'est-à-dire est-ce qu'on vit les différents âges de la vie de la même façon en fonction de ses origines sociales. Et est-ce que du coup ça fait un petit peu évoluer votre analyse notamment des politiques publiques, mais même des visions anthropologiques que vous nous avez présentées?
Alors, si vous voulez, on peut le faire. Pour mon propos, c'est pas ce qui est le plus significatif. Parce que je deviendrai sociologue, ce qui est... surtout pas. Non, mais je deviendrai sociologue au sens où, effectivement, là, ça supposerait d'établir une corrélation. Alors que c'est un peu l'hypothèse que je défends, c'est il me semble qu'il y a dans l'univers démocratique une forme d'expérience partagée des âges de la vie qui prime sur les différences sociales. Ça ne veut pas dire que les différences sociales n'existent pas. Mais elles sont, me semble-t-il, et là j'avance au doigt mouillé, moins significatives que dans les sociétés par caste dont nous sortons. C'est-à-dire que nous partageons beaucoup plus de choses sur le plan de l'expérience des âges de la vie que jadis les ordres aristocratiques, ouvriers, qui avaient vraiment des vies extrêmement hétérogènes. Voilà. Ça serait l'hypothèse. Donc si vous voulez, j'ai plus le sentiment d'une convergence sur le plan de l'expérience. Encore une fois, c'est l'expérience existentielle qui m'importe, hein, et non pas là, plutôt que une fragmentation sociale à l'égard de cette expérience. Voilà l'hypothèse que je défendrais, mais je suis persuadé qu'un sociologue, lui, ne verrait pas du tout les choses de cette manière et serait plus sensible à ce que vous suggérez.
La dernière ? Ah,
bonjour, donc Chloé Posen-Bormund de la Fabrique de la Cité. Je suis pas sûre d'avoir une question qui est très très claire. Donc je vais essayer de dire quelque chose, mais excusez-moi.
C'est très adulte de dire ça comme ça.
En fait, je réfléchissais, je voulais revenir sur la question de la génération X dont vous avez, enfin Y dont vous avez parlé, et plus globalement sur la question, enfin je voulais revenir plus globalement sur la question des millennials, parce que là je comprends tout à fait votre effort de clarification des différents âges de la vie et de votre position de philosophe, donc qui se distingue bien du sociologue, tout ça je le comprends bien, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de finalement de cette tendance économique, marketing, volontaire ou pas, de brouillage de ces âges de la vie, quel est l'intérêt de justement, parce que le millénial, en définitive, c'est, enfin, vous avez répondu à la question, un jeune adulte, bon, on est soit jeune, on est soit adulte, mais là, le millénial, c'est la définition, et c'est en ça que c'est une force économique, c'est justement qu'il est à la fois jeune, créatif, avec tous les attributs positifs qui lui sont attachés, et aussi adulte, parce qu'il a une force économique d'autonomie. Sans ça, s'il était uniquement jeune et soumis à l'autorité de quelqu'un, il n'aurait pas cet intérêt. Et du coup, j'aimerais bien voir avec vous, parce que c'est une tendance dont on peut finalement seulement dire que c'est uniquement une tendance marketing, mais quand on voit la tendance de fond, qu'est-ce que ça implique en termes de management, en termes de transformation des entreprises, des espaces de bureaux, donc c'est quand même une tendance qui est relativement lourde. Est-ce que des transformations aussi... qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Par exemple, vous avez dégagé relativement rapidement cette question du scénario de la lutte des générations, mais en termes RH, il me semble qu'il y a un point qui est quand même là et qui est plus difficile... qui est assez difficile de dégager aussi rapidement. Donc c'est une question qui est très très floue, mais voilà.
Non, c'est... Alors, en fait, je pense que la question des jeunes et des millénials, c'est une question de vieux. C'est-à-dire que, pour le dire, en tout cas, si vous voulez, on se base sur les digital natives, c'est-à-dire sur vraiment le fait qu'il y a une génération qui est dans les numériques et l'autre qui ne l'est pas. Or ça... C'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui est spectaculaire dans notre société, c'est que c'est toutes les générations ensemble qui sont entrées dans l'Internet. Et à bien des égards, je suis plus geek que mon fils, moins que ma fille, mais beaucoup plus geek que mon fils. Et ce qui est spectaculaire, c'est peut-être pas que les jeunes sachent effectivement, soit dans le numérique, c'est plutôt que les personnes de 90 ans se soient mises à un compte Facebook il y a 3 jours. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant, parce qu'elles savent que c'est le moyen pour rester en lien. Et donc, on devrait plutôt s'étonner de cette capacité du grand âge à s'adapter à la numérisation, plutôt que... Voilà. Et ce que je vois, c'est que c'est toutes les générations. Et là, la réflexion RH que vous avez, et moi, là aussi, j'interviens pas mal en entreprise sur ces questions générationnelles, et c'est à la fois très troublé. C'est-à-dire, ils disent, oui, il faut qu'on soit jeune, il faut qu'on accueille... Mais les gens qui se posent cette question, c'est les gens qui ont 40, 45 ans. C'est-à-dire, c'est un souci qui est un souci, j'allais dire, vraiment de toutes les générations. Et l'open space ou des espaces ouverts, ben moi, ce que je vois dans les startups qui m'arrivent de visiter, c'est qu'il y a un brouillage intergénérationnel qui est très impressionnant. C'est à la fois, ça mouve beaucoup entre générations. C'est pas du tout quelque chose, parce qu'on sent qu'on, pour une startup notamment, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais font tout de suite appel à des business angels, à des gens qui ont un peu de compétences. Et c'est voilà. Donc, l'image d'une... Vous voyez, les créateurs de l'Internet, ils sont toujours là. Et ils lâchent pas le... Même si Microsoft, bon, il s'est rangé, ils sont toujours là, ils sont aux manettes. Et c'est singularisé. Donc, il n'y a pas, me semble-t-il, de vraie clé de lecture générationnelle. Alors, évidemment... Il y en a une, mais elle est secondaire, elle est superficielle. Et par ailleurs, sur le plan marketing, les marques ont plutôt intérêt de segmenter. Elles sont dans une hyper-segmentation avec toujours l'idée que quand vous êtes jeune, on vous fait croire que le produit que vous allez acheter va vous faire grandir. Et quand vous êtes vieux, on vous fait croire que le produit que vous allez acheter va vous rajeunir. Et donc les marques sont toujours, non pas sur des brouillages, mais sur vraiment des segments qu'ils essaient de stimuler, de motiver, et puis parfois le faire de façon intelligente. Ça, c'est aussi possible. Mais vous voyez, je pense que la guerre des générations, il y en a des conflits générationnels. Mais ce n'est pas une clé de lecture pour notre société. Il n'y a pas de guerre. Ou alors c'est une guerre sans bataille. Où sont les batailles de cette guerre? Et ponctuellement, il y a des petits conflits, bien sûr, comme dans les familles. Mais il n'y a pas de guerre des générations. Et c'est même d'ailleurs une truanderie absolue. Parce qu'une guerre des générations, ça veut dire qu'il y a des salauds et des bons et des gentils. Et on va prendre aux salauds pour les donner aux gentils. Et à qui vous allez prendre? La jeunesse est-elle victime de la société, comme on dit? Mais c'est ce qu'on... Non. Il y a 100 ans, oui, les jeunes étaient dans les tranchées. La jeunesse française, aujourd'hui, même si c'est difficile de rentrer dans la carrière, l'État-providence investit massivement dans l'éducation comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est ceux qui disent que la jeunesse est une victime, c'est scandaleux. Les étudiants sont pas du tout maltraités. Il y a une partie de la jeunesse qui, elle, est maltraitée, mais pas maltraitée par un État. C'est simplement, l'État n'y pense pas, les voit pas. C'est les Nietzsche que j'évoquais. Ça, c'est un problème. Donc c'est pas la jeunesse qui est un problème, c'est certaines parties de la jeunesse qui sont effectivement oubliées. Mais être étudiant aujourd'hui, c'est une... Franchement, en France, en plus...
Si on se cantonne simplement à la quantité d'argent public qui est alloué en fonction des âges de la vie, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites.
Oui, 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 parce qu'il y a effectivement la répartition, mais même sur l'investissement, enfin sur la gratuité des études, c'est franchement, c'est parce que les calculs sont c'est pas évident à faire. On dépense plus pour les vieux aujourd'hui massivement, mais l'infrastructure, la gratuité des études, c'est quand même c'est du massif. Hein. Enfin bon, ça c'est un débat. Avec François Langlais notamment, parce qu'il avait fait une émission là-dessus, mais on discutait un peu. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de guerre des générations. C'est faux, et c'est sur le plan des politiques publiques extrêmement nocif. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre une génération pour en donner à une autre. À qui vous allez prendre? Est-ce que c'est aux vieux retraités? Retraite moyenne, 1200 euros. Est-ce que c'est.
C'est ce qu'on fait.
Hein? Oui, c'est ce qu'on fait, mais. Après, je dis pas que c'est... Mais en tout cas, c'est... La question de la justice intergénérationnelle qui passionne les philosophes aujourd'hui, c'est politiquement extrêmement problématique. Bon.
Une dernière question. Allez. Le micro arrive.
Oui, moi, j'avais une question qui me rebondissait un peu sur ce que disait Séverine tout à l'heure. Donc on a l'âge adulte comme âge pivot et un peu structure porteuse de la société dans ces différents âges. Et en même temps, dans votre exposé, vous avez dit que cet adulte est en crise de croissance, en crise existentielle. Et donc ça, je trouve que c'est une vision assez postmoderne, en fait,
des choses. Et donc, comment on arrive à la résoudre, cette crise de l'âge adulte? Est-ce qu'il doit juste faire avec? Ou est-ce que le politique, au sens premier du terme, peut apporter une façon de surmonter la crise, en fait? Cette crise-là, comment on peut l'appréhender?
Alors, vous avez vu que les deux crises que j'évoquais sont des crises, disons, l'une est absolument incontournable, comme on dit, la crise existentielle, et l'autre est formidablement positive. Donc, d'une certaine manière, ça neutralise un peu la dimension de crise au sens négatif du terme. La crise, c'est simplement le moment de la décision. Donc, effectivement, on est à un moment où il faut se reposer la question de ce qu'est un adulte. Alors même qu'on a la réponse sous nos yeux. C'était un peu l'hypothèse. Les trois éléments qui définissent l'âge adulte, c'est pas quelque chose que je tire de mon chapeau, c'est simplement une réflexion qu'on partage tous. Enfin, me semble-t-il, si c'est juste qu'on partage tous, et en fait, l'adulte, il est là. Donc, en fait, la crise, non. La crise, c'est simplement le point de vue que l'adulte a sur sa propre existence. Et finalement, c'est très positif de se penser en crise, parce que ça aiguise la curiosité, ça fait réfléchir, ça rend intelligent, ça se fait poser des questions. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne chose que nous vivions une crise de l'âge adulte, parce que ça nous rend plus intelligents, plus sensibles, ça nous fait découvrir des thématiques intéressantes, se poser des questions, et d'ailleurs des questions sur la vie. Est-ce qu'on dit, par exemple, que sur le dernier âge de la vie, que la société française ne réfléchit pas à la vieillesse ou déteste la vieillesse, mais l'économie du vieillissement est aujourd'hui la plus innovante en France. C'est un truc hallucinant. Enfin, le nombre de colloques sur le bien vieillir, moi je suis très content, hein, je suis invité, mais c'est hallucinant. Il y en a toutes les semaines, enfin, bien vieillir, etc. Donc, la crise de l'âge adulte nous rend attentifs à toutes ces problématiques, alors que, soyons clairs, dans une société traditionnelle, aucune question que des réponses. Aucune question que... Aujourd'hui, aucune réponse que des questions. Bon business pour les philosophes.
Bon, ça sera bon. Merci beaucoup.